IDFM Radio, le média valdoisien. Bonjour et bienvenue sur IDFM Radio, la plus belle des radios valdoisiennes en FM sur 98.00, web radio 98.fr, DAB+, sur toute l'Île-de-France et dans le monde entier grâce à notre appli mobile. Jacqueline Voraz avec Naé à la technique. Bonjour Naé et merci de m'accompagner ce matin à la technique. Engagement public, collectivité municipale, territoriale, aujourd'hui mardi 26 mai 2026, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'économie en direct, une émission consacrée ce matin au territoire, à l'éducation, à la jeunesse et aux métiers essentiels du service public local. Ensemble et en direct jusqu'à 11h, je reçois donc deux invités engagés au cœur des activités territoriale. Tout d'abord, Madame Michèle Calix, maire de Roissy en France, réélue dès le premier tour avec 61% 47 des voix. Bonjour Madame le maire.
Bonjour Jacqueline.
Et félicitations pour cette belle victoire municipale.
Merci.
Avec vous, nous reviendrons sur cette confiance renouvelée des habitants, les grands enjeux du territoire de Roissy, le développement économique, les services publics de proximité, mais aussi les attentes des citoyens dans un contexte économique et social particulièrement exigeant. À vos côtés, Kader Kadiri, directeur DGS de la commune du Ménil-Aubry. Bonjour et bienvenue Kader.
Bonjour Jacqueline.
Bienvenue sur IDFM Radio. Avec vous, nous parlerons d'un sujet fondamental mais parfois trop peu mis en lumière, la reconnaissance des ATSEM, des animateurs et des professionnels de l'enfance et de la jeunesse. Des métiers donc indispensables à l'équilibre de nos communes, à l'accompagnement éducatif des enfants et au lien social, mais qui souffrent aujourd'hui d'un manque de reconnaissance, de difficultés de recrutement et d'un déficit d'attractivité. Donc beaucoup de choses à dire, je pense, sur
Exactement.
Ce sujet. Merci d'être les invités en direct de l'économie en direct, votre émission sur IDFM Radio, une émission à retrouver en podcast sur le portail de la radio idfm98.fr.
En Île-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98 FM et en DAB+.
Avant de vous donner la parole, ce matin, nous avons rendez-vous via le téléphone avec notre chroniqueur en géopolitique valdoisien, Gérard Vespierre, auteur de Décryptons le monde et avec lequel nous parcourons les zones de crise du monde et leurs conséquences sur l'économie mondiale. Bonjour Gérard.
Bonjour Jacqueline, je salue également vos invités et bien sûr toutes celles et ceux qui nous écoutent.
Alors Gérard, ce matin vous avez intitulé votre rubrique « Quel avenir pour le Yémen, martyrisé et oublié ?» Pourquoi avoir choisi de nous entraîner ce matin sur ces pas de ce que fut une partie du royaume de la célèbre reine de Saba ?
Vous nous proposez, Jacqueline, de partir vers la belle et grande histoire 10 siècles avant Jésus-Christ. Je vous propose plus modestement de considérer notre monde contemporain. Mais je rends hommage à vos connaissances historiques. Les raisons de ce choix sont multiples, voyez-vous. Premièrement, ce pays continue de préoccuper le monde. Les rebelles houthis pourraient intervenir sur ordre de Téhéran dans le conflit actuel au Moyen-Orient. Deuxièmement, le Yémen est en guerre depuis 2014 et demeure coupé en deux. Troisièmement, après une dizaine d'années de guerre et plusieurs centaines de milliers de morts et un appauvrissement continu, il est grand temps de poser les jalons d'un retour à la paix et au développement pour toute ou partie de ces 40 millions d'habitants.
Vous estimez donc que, malgré une telle situation, les rebelles houthis pourraient rentrer dans le conflit en cours. Mais comment et surtout pourquoi ajouter de la souffrance à la souffrance ?
Cela paraît en effet inimaginable, mais l'idéologie, en l'occurrence religieuse, et les intérêts politiques s'affranchissent malheureusement totalement de la morale. Les rebelles houthis sont religieusement liés à Téhéran et ils dépendent en grande partie des ressources économiques allouées par l'Iran. Or, ils contrôlent l'accès à la mer Rouge, donc la circulation vers le golfe de Suède par le détroit de Bab-el-Mandeb. L'Iran pourrait ainsi, directement et indirectement, contrôler le golfe Persique et la mer Rouge, les deux côtés de la péninsule arabique, deux des plus importants corridors maritimes de la planète. Vous imaginez le niveau de nuisance sur l'économie mondiale que cela peut représenter. Des accords financiers confidentiels auraient été passés entre les États-Unis et les Houthis pour diminuer leur activité politique. Ils ont d'importants besoins financiers à cause de la diminution de l'aide iranienne. Leur intérêt financier est de ne pas entrer dans le conflit, mais il reste toujours et encore la proximité religieuse de Téhéran.
Comment, dans une telle situation, le Yémen pourrait-il trouver une voie de sortie de crise ? Vous évoquiez une guerre depuis 2014. Que pouvez-vous nous dire du Yémen actuel ?
Avant de répondre à cette question, Jacqueline, très précise, je souhaite pour commencer évoquer la trajectoire contemporaine du Yémen. Le pays a acquis son indépendance en 1977 avec le départ de la Grande-Bretagne. Il s'en est suivi la création de deux États, je dis bien deux États, la République démocratique populaire du Yémen au sud, autour de la ville portuaire d'Aden, et la République arabe du Yémen autour de la ville de Sana'a, au nord-ouest. Il est donc fondamental de savoir que dès la fin de la période coloniale, le territoire yéménite a été divisé en deux territoires indépendants, familièrement appelés Yémen du Sud et Yémen du Nord. Puis, en 1990, le rapprochement des deux entités en une seule. Mais cette fusion n'a jamais été vraiment acceptée par le Sud, minoritaire en population. La révolte Houthi de 2014, venue du Nord, a pris la capitale. Il s'en est suivi une guerre civile, mais finalement cette révolte du Nord n'a pas conquis le territoire du Sud. Au paradoxe, le pays se retrouve pratiquement maintenant coupé selon les mêmes contours géographiques que ceux qui existaient entre le Yémen du Nord et le Yémen du Sud lors de l'indépendance. Le Nord regroupe 75% de la population totale, mais sur seulement 25% du territoire autour de Sana'a. Et le Sud offre les chiffres inversés, 75% du territoire, mais 25% de la population seulement autour d'Aden.
Oui, je comprends mieux maintenant votre souhait d'évoquer d'abord l'histoire pour faire mieux comprendre le présent. Mais alors, cette répartition n'est-elle pas une clé, voire même la clé de la solution pour établir la paix sur l'ensemble du territoire yéménite ?
Quel dommage, Jacqueline, que votre bon sens ne puisse pas, en tout cas pour l'instant, prévaloir pour résoudre cette terrible situation. Car effectivement, cette partition, ou plus exactement la confirmation de la partition initiale au moment de l'indépendance, prend tout son sens. Chacune de ces deux régions du Yémen offre des particularités. Le nord-ouest montagneux avec une population habituée à la rudesse, historiquement querelleuse, où a été implantée la pratique chiite de la région musulmane. Et le sud, sous influence beaucoup plus maritime, donc commerçante, et où le sunnisme est majoritaire. Les caractéristiques de la géographie humaine ont conduit, il y a 60 ans, à la constitution de deux États. Eh bien, l'histoire et la géographie réunies nous offrent donc un schéma sociologique et politique de sortie de crise. Il ne s'agit pas de diviser ce qui a été historiquement uni, mais de rendre indépendants l'un de l'autre deux territoires géographiquement et humainement différents. La Tchéquie et la Slovaquie, réunies en 1526, ont été à nouveau séparées en 1993. L'histoire, sans se répéter à l'identique, peut offrir des similitudes.
Alors Gérard, que doit-il se passer pour qu'un tel schéma puisse se mettre en place concernant le Yémen, hein, que le Nord et le Sud puissent chacun retrouver leur voie ?
Nous retrouvons toujours votre constant bon sens et votre envie de résultats concrets. Eh bien, je dirais concrètement qu'il faudrait que deux conditions soient remplies. Numériquement, ce n'est pas beaucoup, mais chacune revêt une grande importance. La première consiste à voir cesser totalement l'influence iranienne auprès du Nord, donc des Houthis. Tant que cette influence idéologique, militaire et financière existera, rien ne sera possible. Donc, pour parler clairement, il faut que le régime religieux à Téhéran soit renversé. Nul ne sait quand, mais cela arrivera, car c'est la première fois en 1400 ans qu'un régime religieux dirige ce pays. La deuxième condition consiste à ce que cette idée ait un parrain politique extérieur qui puisse créer et entraîner cette dynamique. Les États-Unis ou la Grande-Bretagne ou l'Union européenne, peu importe, il faut qu'une entité politique puissante lance l'initiative et la patronne. Le bout du tunnel n'est pas encore en vue, mais nous savons, vous savez maintenant, dans quelle direction il faut creuser.
Merci Gérard. Gérard, j'ai toujours plaisir à le dire souvent à la fin de vos interventions et je ne vais pas déroger à cette habitude, mais vos conclusions sont toujours agréables à entendre car elles ne sont plus qu'optimistes superficiellement, mais elles sont véritablement positives en profondeur et c'est pour ça qu'on vous aime Gérard.
Merci
pour cette lueur d'espoir. Voilà, chères auditrices, auditeurs, c'est ainsi que se termine la rubrique géopolitique de Gérard Vespierre. Vous pouvez retrouver ses écrits et interventions sur son site www.lemondedécrypté.com. À bientôt Gérard, merci pour votre chronique.
Merci à vous aussi et bonne émission.
Merci, à bientôt. Allez, on marque une pause et on va se faire plaisir avec Céline Dion et son titre « Encore un soir ».
Une photo, une date, c'était n'y pas croire. C'était pourtant hier, mentir et ma mémoire, et ces visages d'enfants, et le mien dans ce miroir. Oh, c'est pas pour me plaindre, ça vous n'avez rien à craindre. La vie m'a tellement gâtée, j'ai plutôt du mal à l'éteindre. Oh mon Dieu, j'ai eu ma part, et bien plus à tant d'égards. Mais quand on vit trop beau, trop fort, on en oublie le temps qui passe. Comme on perd un peu le nord au milieu de trop vastes espaces. À peine le temps de s'y faire, à peine on doit laisser la place. Ou si je pouvais, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur. Une fleur, un souffle, une erreur. Un peu de nous, rien de tout. Pour tout se dire encore ou bien se taire en regard. Juste un report, à peine encore. Même s'il est tard. J'ai jamais rien demandé, ça c'est pas la mer à boire. Allez, face à l'éternité, ça va même pas se voir. Ça restera entre nous, au juste un léger retard. Il y en a tant qui tuent le temps, tant et tant qu'ils le perdent ou le passent. Tant qu'ils se mentent, inventant les rêves en des instants de grâce. Où je donne ma place au paradis, si l'on m'oublie sur terre. Encore hier, encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. À peine encore, je sais, il est tard. C'est pas grand chose, rien qu'une pause. Que le temps et les horloges se reposent. Et caresser, juste un baiser,
un baiser. Encore un soir, encore une heure, un peu de nous, un rien de tout. Un soir.
IDFM Radio. Le média valdoisien. C'est l'économie en direct et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Michèle Calix, maire de Roissy en France, et Kader Kadiri, DGS de la mairie du Mesnil-Aubry. Une émission bien sûr consacrée aux enjeux territoriaux à travers la gouvernance municipale, les enjeux de fidélisation des équipes, les perspectives de formation et d'évolution professionnelle, l'avenir des politiques publiques liées à l'enfance et à la jeunesse et l'impact des réformes territoriales sur les petites communes. Alors, on commence avec vous, Madame le maire. Donc, Michel, le fait, je vous appelle Michel, hein, vous.
Bien sûr, Jacqueline.
Donc cette réélection au premier tour, qu'est-ce que vous avez ressenti au soir de cette victoire et à votre avis, quel message les habitants ont-ils voulu vous adresser ?
Bah écoutez, une grande satisfaction pour l'équipe qui s'est investie pendant de nombreux mois à la fois dans la campagne et précédemment. Ben vous avez connu l'historique, oui, hein, du mandat 2020-2026 avec tout ce que nous avons rencontré comme drame, oui, difficulté.
Avec Michel Thomas.
Entre, oui, le décès de Michel Thomas en 2022, donc mon arrivée au poste, et le décès de mon premier adjoint, voilà, en 2025, on a été
éprouvé.
Particulièrement éprouvé et du coup aussi très soudé. Donc une équipe très soudée qui a voulu continuer, accompagner de nouveaux talents. Donc des personnes entre 35 et 40 ans, investi dans le village, dans le monde associatif, donc très très proche des préoccupations des uns et des autres. Pour beaucoup des jeunes nés à Roissy qui ont fondé leur famille, qui ont acheté leur maison et qui ont acheté ou enfin qui se sont installés et fondé leur petite famille, donc avec toutes les préoccupations des jeunes générations, ce qui est très important à avoir en tête.
Alors, réélection signifie mise en œuvre du programme, installation de l'équipe avec de nouveaux élus, leur implication. Parlez-nous un peu de toute cette mise en place.
Alors, très concrètement, les choses ne vont pas aussi vite qu'on pourrait l'imaginer. On en parlait tout à l'heure, juste avant le démarrage de l'émission. Donc, après les élections, il y a un conseil municipal d'installation. Donc, ça, c'est les phases obligatoires avec les déterminations du nombre d'adjoints, les délégations. Donc, tout ça, ça passe par des discussions, par le fait de rassurer les uns et les autres sur la charge de travail. Parce que même si c'est un engagement, c'est l'équivalent d'un travail en termes d'heures d'investissement passé, d'explication de fonctionnement, de prise de connaissance des dossiers. Donc, les choses se font, voilà, à une vitesse qui peut paraître longue peut-être pour,
oui,
l'extérieur,
pour certains.
Sachant que beaucoup de décisions sont tributaires des conseils municipaux. Donc, conseil municipal d'installation avec un certain nombre de choses, un conseil municipal qui a suivi qui concernait le budget, puisqu'on s'est trouvé dans cette période mars-avril avec l'obligation de voter le budget. Donc, beaucoup de formations à faire en amont sur les nouveaux qui arrivent, qui vont devoir voter un budget sans savoir comment fonctionne une vie municipale. Donc, tout ça, ça prend aussi beaucoup de temps. Et puis là, on en est au stade de la formation des commissions. Les commissions municipales, les commissions de travail, donc expliquer aux uns aux autres comment se passent les relations entre un élu, un chef de service, un DGS, donc comme mon voisin de gauche, les DGA. Enfin voilà, c'est plein de choses à assimiler. Ça passe aussi par des formations obligatoires qui doivent être faites dans un délai raisonnable après l'élection. Donc nous, on a prévu de les faire à la rentrée, puisqu'on a pas mal de choses aussi
déjà en cours.
Ouais. Déjà en cours. Et puis vous avez tout le quotidien, la gestion quotidienne. Surtout quand on est dans une poursuite
bien
comme
sûr.
Ça d'activité. Mmh. Donc, bien évidemment, la vie ne s'est pas arrêtée.
Ça s'arrête pas
le 15 mars. Il y a tout le suivi. Donc, voilà, les choses se font progressivement avec des réunions pour que tout le monde puisse s'exprimer, que les gens comprennent la différence entre un adjoint, un conseiller délégué, un conseiller municipal. tout le monde est force de proposition et il faut canaliser parfois aussi
les enthousiasmes.
Les enthousiasmes, dire attention, il y a de la réglementation à respecter, il y a des étapes obligatoires. Donc tout ça, ça passe par beaucoup de pédagogie et puis de rester surtout dans la même ambiance que l'ambiance pré-électorale où on était en campagne. Donc voilà, il faut garder cette connivence. Donc ça passe par un petit peu de, entre guillemets, maternage, d'encouragement, de freinage pour certains. Mon voisin rigole parce que je pense qu'il connaît la même chose dans sa ville. Voilà, donc les choses se font progressivement et se donner surtout des priorités par rapport à un calendrier. Dire voilà, on a prévu plein de choses dans la campagne, dans la continuité de ce qu'on avait fait précédemment. Donc on est axé beaucoup aussi sur le développement durable, la végétalisation, le cadre de vie. Enfin, c'est des choses importantes quand on habite à côté d'un aéroport.
Bien sûr.
Vous connaissez Roissy, on essaye au maximum de préserver un village vert, agréable. Ouais. Mais voilà, c'est plein de choses à mettre en place avec des nouvelles idées, avec, comme vous disiez, des jeunes qui sont pleins de fougue, de punch. Donc il faut qu'on cadre tout ça et surtout se fixer la priorité, le calendrier de nos projets.
D'accord.
Donc plus précisément, on a très bien avancé là sur un conseil municipal des enfants qu'on souhaiterait mettre en œuvre dès la rentrée. Donc ça fait partie des projets qui sont bien avancés. Dans la poursuite de projets, on a, je pense que vous le saviez, on a terminé notre cœur de village, l'aménagement du cœur de village. Pour végétaliser la place du village. Et on doit avoir l'ouverture de l'office de tourisme qui va quitter sa zone hôtelière pour intégrer le cœur de village et qui devrait ouvrir ses portes le 15 juillet dans ces dates-là.
D'accord. Donc, beaucoup de...
Donc, il y a des choses qui vont s'enclencher si vous venez nous voir régulièrement.
Ah oui. En tout cas, on vous suit, on voit que vous êtes très actif. Hein, on relaie tous vos événements, toutes vos activités.
Je sais qu'on vous envoie tous nos plannings des événements.
Sur nos réseaux sociaux, on partage tout. Donc, moi, je vois tout ce que vous faites et c'est formidable. Merci Michel Calix. Je vous pose la question, Kader. Je vous appelle Kader aussi.
Sans aucun problème.
Puisque vous êtes DGS, donc vous avez, vous êtes très proche de votre maire, forcément, et vous avez peut-être aussi une vision soit différente, soit proche. Quelle est-elle quand il y a comme ça une réélection? Déjà, pardon, votre maire a été réélue.
Elle a été réélue.
Voilà. Donc.
Elle a été réélue. Je rejoins ce que dit Madame le maire. Hein, c'est pour nous en tant qu'administratif, puisque effectivement, nous et en tant que directeur. Général des services, on est le bras droit du maire et nous on impulse plus la dynamique donc du maire, ce qui se traduit en pratique en fait sur le terrain. C'est-à-dire qu'on doit après nous aussi préparer aussi une feuille de route sur le terrain pour mettre en place tout ce qui a été la volonté politique en fait.
Mm-hmm.
Nous aussi on a effectivement aussi des projets, les jeunes arrivent conseillés, ils sont effectivement tout feu tout flamme, ils veulent faire plein de choses, sauf qu'on leur dit on a 6 ans et il faut qu'on fasse au fur et à mesure et puis on va pas oublier aussi budgétairement puisque effectivement on a obligé de tenir les finances de la commune. Voilà, donc des fois c'est aussi expliquer, être pédagogue aussi avec les conseillers pour leur expliquer que voilà comment fonctionne effectivement une collectivité et qu'on peut pas tout faire comme ça. Il faut qu'on fasse des recherches de subventions, il faut qu'on essaie de, sachant que nous en plus au Ménil-Aubry on est une petite commune, pas des gros
moyens. Combien d'habitants au Ménil-Aubry? Combien?
1000.
1000,
on
d'accord.
On a 990 habitants, mais j'arrondis à 1000 comme ça, oui. Psychologiquement, voilà. Et donc voilà, donc on doit constamment chercher des subventions. Mm-hmm. C'est ce qui nous fait aussi vivre aussi.
Bien
sinon,
sûr.
On pourrait pas mettre tous nos projets en place. Donc effectivement, je rejoins Mme le maire, c'est très, voilà, c'est l'installation. Mm. Après, effectivement, je pense que pour qu'une commune puisse commencer vraiment à fonctionner avec, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est pour moi, c'est plus fin d'année.
Oui.
On commence là où tout le monde commence à prendre ses marques. Mm. Et puis on peut commencer à effectivement à travailler sur le fond au niveau des projets et puis de la volonté politique.
Oui, pouvoir construire vraiment le programme.
Exactement.
Merci Kader. Ce que je comprends à travers vos deux témoignages, Michel et vous Kader. Michel, vous, c'est combien d'habitants à Roissy?
2800.
2800, oui. 2800. C'est-à-dire qu'au fond, quel que soit finalement le nombre d'habitants, la méthode est la même. Vous avez,
ah oui.
Vous avez, voilà, vous êtes sur le même schéma. Hein, ça change rien.
Tout à fait.
Alors donc, on disait que on est dans un contexte économique parfois fragile. Comment une collectivité justement peut-elle arriver à soutenir l'emploi, les commerces et l'activité économique locale? Ça, c'est important.
Alors là, cette année, c'est un complexe. Enfin, c'est hyper complexe puisque, enfin, nous au niveau budgétaire, on a anticipé au maximum une crise énergétique majeure.
Ah oui. Ah, vous l'aviez anticipé.
On a voté le budget début avril, donc on était déjà en plein conflit, en se disant voilà, le prix de l'énergie va flamber, donc il faut qu'on majore au maximum les hypothèses de dépenses et qu'on réduise les hypothèses de recettes, puisque on sait bien que les collectivités locales vont être mises à mal à la fois dans les versements de subventions et de tout ce qu'on peut percevoir comme recettes. Donc on a essayé d'être le plus terre à terre possible, au mieux être pessimiste dans ces cas-là,
oui,
et avoir voilà des petites marges de manœuvre à droite à gauche. Économiquement, pour l'instant, au niveau de Roissy, donc il y a quand même une énorme zone hôtelière, hein, comme vous le savez, puisqu'on a plus de 8000 chambres. Ce qui est beaucoup pour 2800 habitants, mais ben voilà. Pour l'instant, au niveau des taxes de séjour, on ne sent pas trop l'impact. Donc il y a encore des touristes, des visiteurs, des clients d'hôtels, mais je suis un petit peu pessimiste, oui, sur la fin de l'année. Il y a quand même moins de vols.
Ce problème d'énergie, ça va impacter forcément.
Ça va impacter forcément certaines destinations, donc certains touristes. Donc forcément, le taux d'occupation des hôtels va être impacté. Donc on a une grosse vigilance par rapport à ça. On a déjà été échaudé avec la crise du Covid où toute l'activité qui était axée sur l'aéroportuaire s'est trouvée complètement plombée. On est assez pessimiste sur la fin de l'année. Donc les entreprises, c'est comme au niveau national, hein, vous avez aussi des charges énormes, donc des petites entreprises qui ont d'énormes difficultés. Voilà, on essaye de les soutenir, de les accompagner au mieux qu'on puisse faire, mais c'est quand même anxiogène pour tout le monde.
C'est sûr. Roissy reste quand même une ville, on l'a dit souvent, très attractive du fait de, parce que vous bénéficiez quand même justement de touristes, hein, je crois, qui adorent visiter votre petit village.
Oui. Et puis c'est un petit peu le côté atypique, hein, de Roissy en France, c'est que les gens ne connaissent que la zone aéroportuaire, la zone hôtelière, et connaissent pas du tout le village qui est un village rural en fait.
Très bien. Merci Michel. Je propose qu'on fasse une nouvelle pause et on va écouter Manuel Moire et son titre Beau Malheur.
Tu me dis que rien ne passe, même au bout d'un moment, qu'un beau jour c'est une impasse et derrière l'océan, que l'on garde toujours la trace d'un amour, d'un absent, que tout refait surface comme hier droit devant. Tu me dis que rien ne sert, la parole ou le temps, qu'il faudra une vie entière pour un jour faire semblant, pour regarder en arrière, revenir en souriant, en gardant ce qu'il faut taire et puis faire comme avant. Je peux seulement te dire, je peux seulement te dire, qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur, je sais par cœur. Beau malheur. Tu me dis que rien n'efface, ni la craie ni le sang, qu'on apprend après la classe ou après ses 30 ans, qu'on peut dire trois fois hélas, que personne ne l'entend, comme personne ne remplace ceux qui partent pour longtemps. Tu me dis que vient l'hiver, qu'on oublie le printemps, que l'on vide les étagères, qu'on remplit autrement, qu'on se rappelle les yeux verts, le rire à chaque instant, qu'après tout la voix se perd mais les mots sont vivants. Je peux seulement te dire,
Je peux seulement te dire qu'il m'a fallu la peur pour être rassuré, que j'ai connu la douleur avant d'être consolé, qu'il m'a fallu les pleurs pour ne plus rien cacher, que j'ai connu la rancœur bien avant d'être apaisé. Tu ne sais pas encore ce que je sais par cœur, ce que je sais. Tu me dis que c'est un piège.
En Ile-de-France, vous écoutez IDFM Radio sur le 98FM et en DAB+.
C'est l'économie en direct et ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Michèle Calix, maire de Roissy en France, et Kader Kadiri, DGS de la mairie du Mesnil-Aubry. Une émission bien sûr consacrée aux enjeux territoriaux à travers la gouvernance municipale, les enjeux de fidélisation des équipes, les perspectives de formation et d'évolution professionnelle, l'avenir des politiques publiques liées à l'enfance et à la jeunesse et l'impact des réformes territoriales sur les petites communes. Alors, on commence avec vous, Madame le maire. Donc, Michel, le fait, je vous appelle Michel, hein, vous.
Bien sûr, Jacqueline.
Donc cette réélection au premier tour, qu'est-ce que vous avez ressenti au soir de cette victoire et à votre avis, quel message? Merci d'être resté avec nous, c'est l'économie en direct et ce matin j'accueille Madame Michèle Calix, maire de Roissy en France, et Kader Kadiri, DGS de la mairie du Mesnil-Aubry. Michèle Calix, vous nous avez dit un mot rapide sur le CME, donc le Conseil municipal des enfants. Pourquoi cette volonté?
Alors, pourquoi cette volonté? Parce qu'on s'est rendu compte au début de la campagne et au cours de la campagne que les jeunes voulaient s'investir, voulaient s'engager. Mmh. Et les jeunes, je pense, sont très jeunes. Donc, on a souhaité développer ce sujet-là sur l'école primaire. En se disant que plutôt on les intégrait dans la réflexion communale, dans l'engagement communal, plus on bâtissait les fondations pour des citoyens engagés. Mmh. Voilà. Donc on a travaillé là-dessus. J'ai une conseillère municipale qui est chargée de ce projet-là. Donc elle commence à avoir des contacts sur les différentes communes qui ont pratiqué de la sorte pour qu'on puisse trouver à l'échelle du village, parce que on n'a pas X groupes scolaires, nous on a une école élémentaire, une école maternelle, donc on n'a pas non plus des tonnes d'élèves pour déterminer le bon ratio entre les futurs petits candidats, le nombre de petits candidats, la périodicité des élections, la tranche d'âge, la classe, le type de projet qui pouvait les intéresser. Donc on avance bien de manière à pouvoir passer une délibération, je pense, sur le conseil de fin juin.
D'accord.
Présenter aux habitants dès la rentrée, à l'occasion notamment du forum, ce nouveau dispositif pour leur laisser un petit peu de temps avant les vacances de Toussaint pour mener leur campagne puisqu'on fera les choses comme pour les grands, et que les nouveaux conseillers installés le soient juste après les vacances de Toussaint. Donc c'est un projet qui enthousiasme tout le monde. On a plein de petits élèves qui se demandent même s'ils peuvent être mères des enfants. Enfin ça va
oui,
très bien, c'est assez rigolo.
Ils ont quel âge?
Alors le plus pour jeune l'instant, quel âge? On part plutôt sur les CM1, CM2.
D'accord.
Voilà, donc après, à déterminer si on prend un mandat de 2 ans renouvelable par moitié tous les ans, parce que les CM2 passeront au collège et au collège c'est plus compliqué. Parce qu'il y a moins de spontanéité, et je pense à mon voisin,
oui, c'est
qui est spécialiste des enfants, peut-être me contredira ou pas du tout.
Non.
Je pense que du CM1, CM2, on est à fond dans l'engagement. Il n'y a pas le regard du copain, il n'y a pas le regard de l'autre. C'est peut-être plus compliqué après au niveau des collégiens. Donc dans un premier temps, on commencera par ces tranches d'âge-là, a priori.
Et ça représenterait combien d'enfants?
Alors c'est ce qu'on essaye de déterminer par rapport aux perspectives de composition de classe. Parce qu'on n'aura jamais 60% de candidats sur une classe.
Oui,
donc moi je me dis que une dizaine c'est peut-être pas mal en ayant 5 enfants de CM1, 5 enfants de CM2 pour qu'il y ait toujours les plus âgés qui accompagnent les nouveaux élus l'année d'après. Mm-hmm. Moi, on a réfléchi à ça, on se dit que ça pouvait être pas mal.
Et est-ce que vous allez veiller à la parité Ou c'est pas un souci.
Ah, ça serait l'idéal. Ça serait l'idéal. Mais bien. C'est aussi beaucoup de contraintes. On s'en est rendu compte aussi dans les élections. Et c'est une femme qui vous le dit. Hein, dans les élections municipales, quand vous avez peu de candidats et qu'en même temps il faut respecter la parité, c'est compliqué.
Je vais mettre des
petites gifles. Hein, mais
non. Mais c'est un message qu'on a entendu quand même hein, dans cette campagne. Kader, vous, le fait de créer un CME, vous trouvez que c'est une bonne idée?
C'est une très bonne idée et je rejoins tout à fait Madame le maire. Nous, sur la commune du Mini-Lobry, c'est ce qu'on va mettre aussi parce que c'est ce qui a été mis aussi dans le projet de Madame le maire. Et je rejoins complètement Madame le maire de Roissy puisque, stratégiquement parlant, CM1, CM2, c'est très bien.
Ah oui.
En fait. Après, une fois qu'ils sont passés au collège, c'est très compliqué de les avoir. C'est moins spontané. Et puis, ils sont au collège, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont complètement changé aussi de statut. Et le fait de les avoir CM1, CM2, ça permet après au CM1, une fois que les CM2 sont passés au collège, les CM1 remontent en CM2, on refait une élection avec les CM1. Et puis, il y a toujours effectivement cet engouement, cet accompagnement que nous, on peut maîtriser.
Oui.
Après, au collège, on a souvent du mal à maîtriser un peu les enfants et à les avoir avec nous.
Mais alors, vous voulez dire que le CME sera toujours un CME de CM1, CM2 ou parce que si les enfants grandissent, ils peuvent aussi prendre goût à cette
pour vie. Aussi ça sera ça au démarrage au niveau du CME, enfin des enfants, ça sera voilà CM1, CM2.
D'accord.
Ensuite, si effectivement ils ont été persuadés par leur première expérience et qu'on a une demande plus émanant d'adolescents, des anciens conseillers enfants, pourquoi pas. Mais je pense que c'est dans un deuxième temps.
C'est ça, ça deviendrait un CMJ, c'est-à-dire
voilà,
c'est un conseil municipal de jeunes.
Ouais, avant de finir par un conseil municipal des seniors, des sages.
Avoir peut-être le futur maire dans plusieurs années.
Ça peut, les enfants, ils peuvent. Oui, mais pour rebondir aussi, excusez-moi, Madame le maire, effectivement, moi, pour l'avoir déjà vécu sur la commune des Coins, on l'avait fait effectivement le SME jusqu'au collège, on allait jusqu'en quatrième, et au fur et à mesure, ça s'est épuisé, en fait.
Oui.
On a dû l'arrêter.
Oui, parce qu'ils ont plus d'activités.
Exactement. Ils sont moins impliqués, en fait. Voilà. Donc, c'est très sage, et je pense que c'est très bien. Je pense que c'est ce qu'on fera aussi. Enfin, je pense qu'on copie. Je copierai comme...
sur la commune de Roissy. On va copier,
voilà. Et dire, parce que c'est vrai que c'est une très bonne idée de CM1, CM2... c'est très bien pour moi, c'est bien pour commencer. Puis effectivement, après, avec le temps, on verra si on maintient et si et comment on le remodifie.
Merci Kader. Madame le maire, une de vos priorités aussi, j'ai compris, c'est la prise en compte des 25-65 ans.
Tout à fait.
Donc, expliquez-nous.
Bah écoutez, je pense que comme dans beaucoup de communes, les focus sont mis sur l'enfance, la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, les seniors. Mais une fois que les gens sont dans la vie active, s'ils n'ont pas d'enfants, ben voilà, vous avez des couples, des célibataires, ils se sentent un petit peu, je pense, éloignés des dispositifs qui existent dans les villes. On n'a pas forcément mis le curseur sur cette tranche d'âge-là. Donc là, on s'est dit, faut qu'on pense à eux, qu'on ne les oublie pas. Donc, ça passe par exemple, le projet que l'on a de mettre en place une salle fitness municipale.
Ah, d'accord.
En se disant, typiquement, les gens qui ont 30 ans, 40 ans, on les retrouve dans les salles de sport. Je vais pas faire de publicité pour les uns et les autres avant le travail ou le soir. C'est aussi une occasion pour eux d'échanger. Bah, nous, on va pouvoir libérer des locaux suite à la réalisation d'un autre projet. Pourquoi pas faire ça aussi à Roissy? Donc ça, c'est un premier exemple. On va mettre en place aussi le pass sport, mais sur des activités qui peuvent être faites à l'extérieur du village. Donc c'est aussi à destination de cette tranche d'âge-là. Et au même titre qu'on fait des séjours pour les petits, pour les ados et pour les seniors, proposer peut-être dans l'année un ou deux week-ends réservés aux 25-65 ans, mais pas à la carte. Enfin, on n'est pas un CE. C'est sur un week-end bien déterminé avec une thématique bien déterminée pour qu'aussi il y ait du lien qui se crée entre personnes de la même tranche d'âge et avec les mêmes préoccupations. Donc ça, c'est ce qu'on va tenter de faire l'année prochaine.
J'aimerais bien qu'on parle aussi de toutes vos activités, tout événementiel, et notamment de ce moment un peu fort qui s'appelle Ça va chéffer. Mm-hmm. Vous prévoyez de le faire à nouveau cette année?
Alors, Ça va chéffer, c'est une initiative, une création du président du club de hand, Éric Collin,
que vous avez
déjà...
Oui, que j'ai reçu, oui.
Reçu. Il est à fond dans ce projet. Le projet prend des proportions phénoménales d'année en année.
C'est pour ça
Moi, pour l'instant, mon humble rôle, c'est de faire partie du jury. Ce qui n'est pas une mince affaire, parce que ça veut dire quand même, Jacqueline, si vous voulez participer, c'est 14 entrées, 14 plats, 14 desserts, avec des notations et des chefs qui parfois prennent mal la perte d'une étoile. Hein. Enfin, étoile, mais...
Oui, oui.
Alors, pour mon voisin, Ça va chéffer, qu'est-ce que c'est? C'est un partenariat entre les chefs des hôtels de Roissy, le club de hand qui était à l'initiative de cette dynamique-là. C'est qu'il y ait des brigades qui soient créées, donc un chef professionnel qui gère une brigade de 13-14 personnes qui sont issues du monde associatif, des habitants, des parents d'élèves, qui n'ont aucune connaissance en cuisine. Donc, ils doivent obéir à un chef, parce qu'un chef, c'est un chef. C'est pas pour rien qu'on les appelle comme ça. Donc, c'est quand même assez militaire, hein, la brigade d'un chef. Et concevoir des entrées, des plats et des desserts qui sont soumis après à des notes d'un jury. Et bien sûr, c'est la participation à la brigade et moyennant finance versé après dans le cadre du Téléthon.
Oui, ce sont les habitants qui sont les brigades.
D'accord.
Et donc, je trouve que l'idée est incroyable. Et puis, je crois que l'année dernière, vous avez tout déchiré.
Hein. On a tout déchiré. il y avait 14 brigades. Donc après, il faut trouver les lieux qui peuvent accueillir en simultané 14 brigades d'une douzaine de personnes, avec la possibilité de cuisiner, de réchauffer, de servir. Donc ça se faisait l'année dernière à l'hôtel Marriott. Ils ont réquisitionné tous les salons pour pouvoir avoir la surface nécessaire.
Oui. Nécessaire. Et donc le but, c'est de recueillir de l'argent pour le Téléthon.
Bien sûr, bien sûr.
Donc j'imagine que vous devez recueillir une belle somme à chaque fois.
Il recueille une belle somme et la ville abonde par rapport à ce qui a été récupéré par les différentes associations qui sont impliquées dans le Téléthon. Mais c'est une belle, un beau moment. Mmh. C'est très sympathique. Bon, les chefs sont très très sérieux. Les gens qui constituent les brigades, un peu moins. Donc
oui, ça fait. Hein.
Si vous prenez la brigade qui était constituée de joueurs de hand, ils avaient plus de temps à danser ou à faire les imbéciles qu'à forcément respecter. Mais le résultat était présent et il y a une très très belle ambiance.
Ouais.
Oui, très oui. Sympathique et très bon.
Je veux en parler parce que vous avez cette en tête ce souci de faire du lien entre les 25-65 ans. Ça en fait partie. Oui, oui.
Mais il y a de tout. Vous allez dans les brigades avoir aussi bien des personnes qui sont dans les seniors,
des mamies,
et puis des parents d'élèves et des jeunes sportifs qui ont la trentaine.
C'est ça, oui. Ouais, ouais. Non, moi j'ai très envie de venir vous voir cette année parce que vous en avez tellement parlé que ça donne envie. Allez, on fait à nouveau une pause et on se retrouve tout de suite après le duo Pascal Obispo et Icar qui chante « Viens ».
Viens comme tu veux, en avion, en courant, en marchant, dans un jour, une heure ou maintenant. Viens comme tu es, avec ou sans accent, étranger, sans frontières, sans drapeau libre en frère. Viens sans amour, tendre ami, toi l'amoureux de la vie, avec tes qualités, tes défauts aussi. Viens et peu importe ton genre, le ciel saura bien te comprendre, sans te juger, viens tout recommencer. Sans raison, peu importe la saison, au soleil, sous la pluie, à l'abri des intempéries. Viens te chauffer, te blottir, sans aucun projet d'avenir, sans en rougir, oui viens sans réfléchir. Viens si t'as mal, si t'as peur, quand t'es seul, comme un chien abandonné, ça va te faire du bien. Viens.
sans pudeur, sans penser au passé, en passant ou pour rester, oui viens sans hésiter. Allez viens. Viens sans trophée ni victoire, sans superbe et sans gloire, sans lumière, le cœur en bandoulière. Viens sans guitare, sans piano, ici et à tout ce qu'il te faut. Tu verras, demain tout changera. Viens héritier ou mendiant, une main derrière, l'autre devant, sans croissant, sans les fleurs, sans l'argent. Viens la nuit au soleil levant, viens quand tu seras pas bien dedans. Mon ami, tu seras toujours chez toi ici. Allez viens. Rire comme on respire, mon ami, tu seras toujours chez toi ici. Allez viens.
Écoutez IDFM Radio où que vous soyez via l'appli IDFM Radio et sur idfm98.fr.
C'est l'économie en direct et ce matin j'accueille Madame Michèle Calix, maire de Roissy en France, et Kader Kadiri, DGS de la mairie du Ménil-Aubry. Madame le maire, donc on a compris toute votre votre priorité face à la jeunesse. On sait que les habitants attendent souvent des services publics efficaces. Attendent de vous des services efficaces et accessibles. Comment arriver à maintenir cette qualité de service malgré les contraintes budgétaires, vous l'avez évoqué?
D'abord, il faut être à l'écoute. Il faut être à l'écoute des besoins. Il faut toujours aussi être dans la pédagogie, puisque les citoyens, comme les Français en général, sont devenus plus des consommateurs. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe au Ménil-Aubry, mais voilà. Donc, on est dans la consommation. Dans le dû, donc il faut expliquer les choses. Il faut essayer de pas de rationaliser, mais enfin de mutualiser au maximum les activités et surtout d'habituer les services aussi. Et ça, c'est pas forcément ce qui est le plus facile à travailler en transversal.
Ah oui.
De manière toujours à être en liaison un service jeunesse avec un service animation vie locale, avec un service culturel. Enfin voilà, les gens s'habituent aussi à travailler pour ne pas dupliquer inutilement des manifestations qui paraissent proches.
Oui, je comprends.
Voilà.
Oui.
Alors après, en termes de services, forcément la sécurité, ça fait partie des postes qu'on
J'allais
doit maintenir
oui.
en permanence.
C'est un problème, la sécurité à Roissy.
C'est pas que c'est un problème, mais il faut être vigilant. C'est pas par rapport au village en soi, c'est qu'on a une énorme activité hôtelière.
Oui,
donc forcément, vous multipliez les risques de problèmes. Forcément, sur 8000 chambres, vous pouvez avoir tout un tas de sujets qui n'ont rien à voir avec la vie d'un village.
Alors, une question qui me tient à cœur, c'est vous êtes une femme, élue à la tête d'une collectivité. Ça reste un engagement exigeant. Et quel regard portez-vous justement sur l'évolution de la place des femmes dans la vie politique locale?
Écoutez, ça grimpe petit à petit.
Oui.
au niveau
c'est
du...
vrai qu'il y en a de plus en
non,
plus.
Non, mais au niveau du conseil communautaire, on se rend bien compte que la place des femmes a pris un peu plus d'importance. Et puis, au niveau des maires de l'agglo, donc qui a 42 communes, on en rigolait avec certaines maires. C'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des remplacements d'hommes, c'était des femmes.
D'accord.
Mais voilà, nous on se pose pas de questions plus que ça. On a, enfin, je pense pas qu'il y ait une façon de gérer plus féminine.
Non, mais c'est pas. On parle toujours des. Enfin, une femme, elle a plusieurs vies dans une journée. Ah, hein, donc voilà, il faut arriver à tout gérer.
Il faut surtout que la famille suive. C'est ça le sujet. Mais que ça soit un homme mère ou une femme mère, c'est une histoire de famille.
Bien sûr.
Vous n'avez pas le soutien du reste de la famille, c'est compliqué parce que c'est quand même beaucoup d'engagement, beaucoup d'heures passées en dehors du foyer. Donc, il faut vraiment avoir quelqu'un. Qui le comprennent.
Oui, qui le comprennent, qui soient votre
écoute. Qui le comprennent et puis qui vous soutiennent. Enfin,
bien sûr, c'est indispensable. Alors, faites-nous un petit peu un topo des activités, enfin des événements qui vont arriver là dans les mois à venir.
Alors, cette année, Jacqueline, on va être soft, on va être sur une année normale.
Oui.
2026, forcément, c'était une année électorale, donc on reste sur du run, si je puis dire. Ben on va enchaîner avec la fête de la musique, la brocante, enfin comme habituellement. Le 13 juillet, qu'on va délocaliser, par contre, puisque nous avons quand même quelques avions qui passent à proximité, et c'est pas forcément compatible avec un feu d'artifice, donc il faut faire toujours attention à ce que nous dit la DGAC. Et vous n'êtes pas sans savoir que nous avons complètement refait notre stade il y a 2 ans pour en faire un magnifique stade synthétique avec du maïs. C'est qu'on n'a pas envie d'avoir du pop-corn à la place du terrain de foot. Enfin bon, vu le prix du projet, ça devient compliqué de tirer le feu d'artifice sur le stade comme on pouvait le faire jusqu'à présent. Donc on a des perspectives avec le golf. Donc on devrait pouvoir tirer le feu d'artifice du golf, ce qui pourrait être sympathique.
Oui.
Faire c'est comme habituellement la soirée dans le parc de l'Orangerie où on s'était rencontrés le festival. Oui. Donc c'est sympathique, les gens ont leur marque. Et puis d'aller tranquillement avec les petits lampions jusqu'au belvédère du golf pour assister au feu. Et une première, c'est que le lendemain, donc vraiment le 14 juillet, on souhaite développer les jeux en bois, les jeux un peu traditionnels pour trouver l'ambiance fête de village sur la nouvelle place du village, donc le 14.
Oui, pour reprendre un petit peu ce que vous avez fait pour le voyage en France.
Exactement.
Là, il y avait des jeux comme ça, c'était très sympathique.
Exactement, donc de retrouver un petit peu le côté traditionnel, que les jeunes voient autre chose que des tablettes et des jeux vidéo. Je regarde le jeune qui est en face de moi, je ne sais pas s'il est concerné, mais le message passe quand même. Un petit peu. Et ensuite, on enchaînera avec la plage. 4 semaines et demie de plage.
Bon, vous allez partir en vacances quand même un petit peu.
Je ne sais pas encore.
C'est pas au programme. C'est pas programmé en tout cas.
C'est pas programmé.
Michel Calix, donc comme je l'ai dit, récemment réélu au premier tour, quel message souhaiteriez-vous adresser à vos habitants qui ont renouvelé leur confiance?
Je les remercie et je resterai toujours à leur disposition. Mmh. Je suis quelqu'un d'assez proche des gens, à l'écoute. Ils savent qu'ils peuvent venir me voir sans problème. La porte du bureau est ouverte, donc on va même essayer encore d'accentuer cette relation entre élus et habitants, puisque j'ai des adjoints qui sont peut-être un peu plus éloignés de par les délégations des habitants, mais d'essayer de mettre en place ou des permanences ou des points plus réguliers de rencontres. Mais voilà.
Très bien. Ben merci. Et je voulais vous remercier aussi parce que vous nous avez aussi renouvelé votre confiance en termes de partenariat avec IDFM Radio. Donc un grand merci. C'est très précieux pour nous.
C'est bien normal, Jacqueline.
Merci à vous. Allez, on fait une nouvelle pause. On va écouter Renan Luce et ses voisines.
Dont les ombres chinoises ondulent sur les volets. Je me suis inventé un amour pantomime où glissent en or et noir tes bas sur tes mollets. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas. Je maudis les techniciens dont les stores vénitiens découpent dans tranches la moindre paire venge déjà pillée. Chaleur dentelle, au vent sur les balcons, c'est un peu toi qui danse, quand danse la mousseline, invité au grand bal de tes slips. voisins, les voisines qui vident leurs armoires en quête d'une décision. Dans une heure environ, tu choisiras le jean, tu l'enfileras bien sûr dans mon champ de vision. De ma fenêtre en face, je caresse le plexiglas, concurrence déloyale de ton chauffage central. Une pluie étanche interrompt ma transe, puis des épais rideaux, et c'est la goutte d'eau. Un ravalement de façade me cache ta palissade, une maison de retraite construite devant ma fenêtre. Sur un fil par centaines sèche d'immenses gaines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines. J'ai toujours préféré aux voisins les voisines.
IDFM, 98FM.
On continue sur notre lancée avec l'économie en direct sur IDFM Radio, dans laquelle j'accueille Madame Michèle Calix, maire de Roissy en France, et Kader Kadiri, directeur des services généraux, c'est ça, de la mairie du Ménil-Aubry. Alors, Kader Kadiri, peut-être un mot sur votre parcours, parce que je vous ai posé d'autres questions, mais un petit mot sur votre parcours.
Écoutez, j'étais animateur.
Oui.
Voilà. J'ai commencé en tant qu'animateur. Et puis, voilà, j'ai évolué au fur et à mesure tout au long de mon année, et tout au long de l'année, puis des années, pardon. Et je suis devenu directeur DGA, directeur de l'éducation enfant, jeunesse et sport sur la commune des Couans. Et puis, depuis un an et demi, j'ai pris la direction générale des services sur le Ménil-Aubry. Voilà un petit peu, je suis un homme de terrain.
D'accord.
Ça fait 31 ans maintenant, donc ça date. Ça
oui, vous ne les faites pas.
Merci, je suis plus proche voilà, de la retraite que maintenant. Je ne suis plus un jeune qui démarre.
Oui. Et donc vous, ce qui vous importe vraiment, vous êtes, peut-être c'est dû à votre formation d'animateur, vous êtes très attiré par l'importance des métiers éducatifs. Mmh. Et vous vouliez, nous, comme je l'ai dit en préambule, attirer l'attention sur les ATSEM, A-T-S-E-M, mmh, et les animateurs. Donc expliquez-nous ce que veut dire ATSEM.
Bah, c'est les agents qui s'occupent, qui sont en lien avec les enseignants,
oui,
et qui s'occupent des enfants en école maternelle.
Et vous pensez que ces métiers aujourd'hui ne sont pas suffisamment reconnus?
En fait, on les oublie souvent.
Ah
en
oui.
fait, moi, c'est vrai que c'est un métier, que ce soit ATSEM ou animateur, que je voulais vraiment mettre en lumière parce que, et qui me tient à cœur, parce que c'est des métiers qui sont souvent oubliés. On parle beaucoup d'enseignants, de problématiques des enseignants, mais on ne parle pas du tout de la place de l'ATSEM et des animateurs au sein d'une commune.
Ce sont des gens qui sont un peu plus dans l'ombre.
Ils sont dans l'ombre,
oui,
mais qui sont des piliers.
C'est ça, qui ont un rôle fondamental auprès des enfants.
Exactement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je voulais vraiment attirer un petit peu l'attention sur eux parce que on les oublie en fait.
Mmh. Voilà. Et concrètement, quel rôle jouent ces professionnels justement dans le développement et dans l'équilibre des enfants?
Bah, en fait, ils accompagnent les ATSEM, ou que ce soit ATSEM ou animateurs. En fait, les ATSEM sont embauchés par les collectivités qui sont mis à disposition après de l'école. Souvent en classe maternelle, hein, sur les petites sections, on les retrouve souvent, les ATSEM, sur les petites sections ou moins de sections. Après, c'est une volonté aussi politique de se dire effectivement, est-ce qu'on les met sur les trois classes, petites sections, moins de sections, grandes sections, ou alors est-ce qu'on les laisse que sur les petites sections, sachant qu'il n'y a pas de règles.
Oui.
Voilà.
Oui.
C'est au choix de la commune de dire si on met juste sur les petites sections. En fait, c'est des agents, en fait, des ATEM qui vont accompagner les enseignants dans le bien-être des enfants, dans l'apprentissage, dans le développement. Et après, derrière, les animateurs ont un second rôle à jouer. Eux, c'est sur le temps périscolaire.
Oui.
Puisque c'est après l'école que les animateurs interviennent, déjà le matin, sur les accueils du matin avant l'école, sur la pause méridienne, et après sur les accueils du soir.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
Et les mercredis et les vacances scolaires. Mais c'est vrai que souvent, on parle, là, à chaque fois qu'il y a, qu'on entend à chaque fois qu'il y a des grèves ou des choses comme ça, j'en ai une en tête quand il y a eu la dernière grève avec, où tout le monde s'est mis en grève. On a beaucoup parlé des animateurs, des enseignants, pardon. Et en aucun moment, on a complètement zappé les ATSEM et les animateurs.
Je m'adresse à vous, Michel. Vous avez ce sentiment aussi par rapport à ces...
Et puis, ce qu'on oublie aussi d'expliquer, c'est que c'est vraiment un binôme. Qui doit fonctionner entre un agent de la ville, donc l'ATSEM, c'est un agent de la collectivité, et un enseignant qui est, lui, fonctionnaire d'État. Donc il faut vraiment qu'il y ait un bon partenariat, un mode de fonctionnement fluide entre l'enseignante et l'ATSEM. Et leur rôle se trouve encore plus développé, je pense, depuis l'école obligatoire à 3 ans, où maintenant vous avez des enfants qui rentrent parce qu'ils ont 3 ans et pas parce qu'ils sont propres.
Ah oui.
Alors c'est peut-être quelque chose qui paraît comme ça, mais c'est une charge de travail. C'est une charge de travail quand même très 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 importante. L'ATSEM, elle est aussi là pour tout le quotidien de l'enfant, sa vie quotidienne au niveau de l'école, et en même temps, l'ATSEM est là pour assister l'enseignante alors qu'elle n'a pas une formation d'enseignante.
Du tout.
Sur tous les petits travaux de dessin, de pédagogie, quelle que soit la section, effectivement, l'âge de l'enfant. Donc c'est très 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 important.
Ça reste donc si je comprends bien, il y a probablement aussi un problème de recrutement.
Alors au niveau des ATSEM, un problème de recrutement. Il y a un problème de diplôme.
Ah oui, d'accord.
On est dans un système où il faut absolument avoir le diplôme dans la fonction publique.
C'est quel diplôme? Alors, c'est le BAFA?
Là, non, du tout. Non, là, actuellement, les ATSEM, ils ont un concours à passer.
Ah,
l'ATSEM.
Oui.
Et donc, voilà, ils doivent passer un concours pour pouvoir être titulaire sur un poste d'ATSEM. Il s'avère qu'il y a beaucoup de villes qui n'ont pas d'ATSEM, qui ont le concours d'ATSEM.
Oui.
Voilà. Elles ont souvent le CAP Petite Enfance, qui pour moi, je pars du principe que le diplôme ne fait pas forcément la compétence.
C'est sûr.
Et il y a des gens qui sont très... Moi, j'ai des ATSEM très compétentes et qui n'ont pas forcément le diplôme, mais qui ont un CAP Petite Enfance ou qui ont la fibre. Voilà. Et je pense que...
Après, en vous écoutant, je me dis que comme ce sont des personnes qui s'occupent d'enfants, c'est une vraie responsabilité. Peut-être que le diplôme est nécessaire pour une question d'assurance ou...
Non, pas forcément. Parce que quand vous partez, vous faites le CAP Petite Enfance, ou après, une fois que vous êtes ATSEM, nous, on envoie nos agents en formation. Sur la petite enfance, sur l'enfant, sur... voilà, il y a différents thèmes avec le CNFPT qui nous donne la possibilité de faire des formations avec eux. Mais en fait, c'est juste un concours. C'est pour les placer au niveau de leur grade et leur avancement de carrière, en fait.
Oui, c'est ça. Et les conditions de travail, est-ce qu'elles sont correctes ou on peut en parler?
On peut en parler. Non, les conditions de travail d'une ATSEM, pour moi, je me bats au quotidien. Je me suis toujours battu, je me battrai toujours. C'est que il y a vraiment un décalage entre le corps enseignant et les ATSEM.
Ah oui, toujours.
En fait, les enseignants... Pour moi, hein, je pense qu'elle ne. Pour certaines personnes, il n'y a pas de bienveillance.
Elles ne mesurent pas
l'importance d'avoir une ATSEM. Elles ne le prennent pas comme un apport, mais souvent comme une. Alors, j'aime pas dire ça, mais souvent, moi, nous, on les compare. Hein, nous, dans le monde de l'animation, on compare notre métier. On dit qu'on est les torchons et les serviettes.
Ah oui.
Voilà.
Oui.
C'est une caricature que j'aime pas trop, mais néanmoins, la réalité nous fait dire qu'à un moment donné. Les ATSEM ne sont pas du tout, pour certaines, ne sont pas du tout respectées, en fait. C'est beaucoup les nappes pipi. Elles doivent faire que les choses qui ne, des fois, ils ne leur racontent pas forcément, en fait.
Bien sûr.
Elles peuvent être valorisées aussi autrement.
C'est pour ça que je parlais de partenariat. C'est important d'avoir un bon binôme. Parce qu'il ne faut pas oublier que les enseignantes, elles sont souvent en turnover. Enfin, c'est voilà, c'est un enfant, il peut passer 3 ans à la maternelle, il va avoir X enseignantes et il va se rappeler de ses ATSEM parce qu'elles, elles sont restées les 3 ans.
Oui, oui, c'est
et
comme des, continue, bien des sûr. Nounous, oui,
c'est ça, c'est ça. Et par nous, c'est peut-être pas le terme qui va bien, mais c'est les piliers, c'est les piliers de la maternelle.
Exactement. Et c'est la référente en fait.
Oui, c'est ça.
Pour les
ça.
Parents, c'est la référente ATSEM. Mais effectivement, je rejoins ce que dit Madame le Maire. Elles ont, en fait, l'ATSEM a 2 employés entre guillemets. Mmh, en fait, elles doivent se positionner parce que l'employeur c'est nous, la mairie, mais on les met à disposition. Et c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça que là, on a mis en place, et plusieurs communes le font, on a mis en place une charte des ATSEM pour vraiment cadrer les choses sur ce qu'elles peuvent faire, ce qu'elles ne peuvent pas faire. Parce que souvent, on était amené à avoir des ATSEM qui prenaient une classe, en fait. Où l'instit partait faire un truc et c'est l'ATSEM qui prenait une classe. Mmh. C'est pas possible, en fait. En termes de responsabilité, ce n'est pas possible. Donc c'est vrai que souvent, les enseignantes ont du mal à l'entendre. Mmh. Mais ça commence à venir et puis nous, on essaie d'expliquer. Alors, on voit la différence avec les nouvelles instits.
Oui.
Qui arrivent, qui ont souvent été animatrices.
Oui, qui ont ce rôle de ATSEM.
Exactement, qui ont été animatrices. Et puis aujourd'hui, qui se disent, bah, je suis enseignante, je sais ce que c'est d'avoir une ATSEM. Voilà, d'avoir une collègue. Donc, elles sont bienveillantes, elles sont dans, en fait, elles mettent l'ATSEM avec elles dans le projet de classe.
Oui, elles font participer.
Complètement, voilà, à la vie de la classe, en fait.
Au fond, ce que vous aimeriez, c'est qu'il y ait une reconnaissance institutionnelle. Mais alors, du coup, comment, quelle passerelle ou évolution professionnelle pourrait être développée pour ces métiers ?
En fait, l'évolution d'une ATSEM, malheureusement, elle s'arrête avec le concours d'ATSEM.
Oui.
Voilà. Elle peut rester ATSEM très, 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 très longtemps, en fait. Il n'y a pas d'évolution sur un poste d'ATSEM. Qu'un animateur, c'est autre chose. Un animateur, il a cette possibilité de se dire, voilà, je suis animateur, après, si je passe les concours, les diplômes, je peux passer coordinateur de service, ces choses comme ça, donc évoluer, comme moi, j'ai pu faire. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'aussi, pour revenir aussi aux animateurs, aussi sont complètement aussi effacés du tableau.
Ah oui, c'est ça. Ouais,
donc c'est vraiment une chaîne, c'est vraiment un groupe qui est vraiment effacé et où moi je me bats pour
qu'elles
soient vraiment, qu'ils soient tous reconnus en fait.
Mm-hmm. Voilà. Ça me fait penser, ce que vous dites, ça me fait penser un petit peu aux aidants, dont on trouve qu'ils sont souvent un peu invisibles quand ils s'occupent de personnes handicapées ou autres. Et dans ce cas-là, est-ce que c'est le maire qui a la main sur ce personnel ou
les
pas
ATSEM, oui, c'est du personnel communal.
Oui, oui. Donc vous-même, en tant que maire, vous pouvez peut-être sensibiliser les enseignants sur
oui,
leur rôle.
Oui, alors nous, à Roissy, on a une seule école maternelle, donc avec des enseignantes qui sont stables.
Bienveillantes, probablement.
Et stables. Donc ça permet aussi d'avoir justement cette habitude de travail en binôme. C'est quasiment à Roissy l'ATSEM qui choisit son instit.
Enfin, super.
On est dans ce binôme-là. On est assez présent. On va souvent à la maternelle pour voir comment ça fonctionne.
Ça se passe.
Il n'y a pas de sujet par rapport à ça, parce qu'on est à petite échelle et qu'on a la possibilité de mettre une ATSEM sur chaque classe, puisque chaque classe a plusieurs niveaux, en fait.
Mm-hmm. Oui.
Les enseignantes ne veulent pas avoir 100% de petites sections, de moyennes sections et de grandes sections, donc elles ont mixé les 3 niveaux dans chaque classe.
Mm-hmm.
Ce qui leur permet, pendant les temps de sieste, parce que les plus petits font la sieste, de privilégier un certain nombre d'activités de contact avec les moyens et les grands. Donc on a des ATSEM pour chaque classe de maternelle.
Kader Kadiri, vous développez aussi des projets autour de l'enfance et de la jeunesse. Hein, et je crois que vous vouliez nous en dire davantage. Hein. Donc,
Nous, alors, sur le coup, on essaie de développer... On développe effectivement des projets au niveau de l'enfance et de la jeunesse. Là, sur le coup, sur le Mini-Lobry, on va créer un centre de loisirs.
Ah, d'accord.
Là, pour l'instant, on a fait à l'envers, on a un service jeunesse. Mais effectivement, là, on va se consacrer à l'ouverture très prochainement, on espère pour la rentrée, d'un centre de loisirs pour les plus jeunes.
Oui.
On fait des séjours.
Quand vous dites les plus jeunes,
ça va de 3 ans à 11 ans.
Ah oui, voilà. C'est très jeune. Donc,
voilà, ça va de 3 ans à 11 ans. Et puis, le service jeunesse, nous, il démarre de 12 ans à 17 ans.
D'accord.
Voilà. Actuellement, il fonctionne très bien, ce service jeunesse. Et puis avec Madame le Maire, voilà, c'est dans son projet de dire, il faudrait ouvrir un service, un centre de loisirs, mais qu'on va mutualiser avec une petite ville qui s'appelle Boukbal, qui est 400 habitants. Madame le maire doit connaître. Et qui va aussi, voilà, intervenir, qui va venir aussi, dans notre centre de loisirs. Alors, on essaie de mutualiser, un maximum parce qu'on est des petits villages.
Oui.
Et on n'a pas forcément les moyens.
Bien sûr.
D'être seul et puis de pouvoir porter ce type de projet-là. Donc, on mutualise.
C'est oui, ça c'est ça, vous faites des économies d'échelle.
Voilà.
Hein, ouais.
En fait, on mutualise beaucoup les moyens. C'est-à-dire que, par exemple, là, on crée depuis, sur la commune du Mini-Léobry, depuis 2014, on crée des séjours.
D'accord.
On crée des séjours. Donc, on mutualise avec Bailly en France. La commune de Bailly en France. Là, on a mutualisé avec Écouen, puisque
oui,
j'étais sur Écouen à l'époque.
Vous connaissez bien.
Voilà. Et donc, les enfants, après, se connaissent bien. Donc, ça crée vraiment du lien entre eux. Et puis, on mutualise les moyens dans les séjours qu'on fait.
D'accord.
Voilà, donc ça nous permet d'avoir un coût moindre et chacun a son équipe d'animation, chacun a son directeur et on part dans un lieu commun où on mutualise les profs de SF quand on part au ski. Ça nous permet d'avoir plus de profs de SF. Ça nous permet vraiment de d'avoir un apprentissage un peu plus tranquille avec les enfants.
Vous pouvez nous donner un exemple de séjour que vous avez mis au point.
L'année dernière, on est parti en Grèce.
Oui.
Ah, voilà, on est parti 10 jours en Grèce et on est parti avec les communes Mini-Léobry, Bailly en France, Puisé en France et Bonneuil en France.
D'accord.
Voilà, tous ces enfants-là et
ça représentait combien d'enfants?
À peu près 100.
Ah oui,
150 enfants à peu près qui sont partis.
C'est une grosse machinerie pour laisser.
Mais les enfants, tout était bien organisé. En plus, on est parti en avion, donc chacun avait leur groupe d'animateurs au niveau de la réglementation.
Vous faisiez partie du voyage aussi?
Non, moi je l'organise avec.
Vous aussi, vous
je l'organisais. Voilà, après et c'est mes directeurs qui partent là-bas. Donc moi, je pars en amont.
Oui,
pour voir le lieu,
vérifier,
pour bien
être
sûr,
en place.
Voilà, pour être sûr que chacun a leur diplôme là-bas pour les activités que les enfants vont faire. Et puis là, cet été, cet hiver, on a fait l'Italie, on est parti skier en Italie. Pareil, il y a beaucoup plus d'enfants.
Je vois Madame le maire qui fait des yeux.
En fait, on mutualise et puis on essaie de faire découvrir parce que c'est culturel aussi.
Oui,
c'est aussi l'objectif
sûr,
de dire, voilà, on va dans un autre pays, on apprend, on voit d'autres pratiques. On échange avec d'autres confrères aussi là-bas, puisque les enfants sont mélangés avec d'autres enfants aussi de d'autres pays.
Ah oui,
donc
il y a
vraiment un brassage.
Une intégration,
voilà, qui est hyper intéressante. Et là, cette année, cet été, là, on part tous en Espagne. Voilà, on fait l'Espagne.
À quel endroit?
On part à côté de Barcelone.
D'accord.
Dans un petit village, on est à près de 700 mètres de la mer. Et sur le coup, il y a plusieurs communes. Là, on a intégré aussi cette année Viarme, qui vient, la commune de Viarme,
oui.
Et Asnières-sur-Oise qui viennent.
Ah oui, je connais bien Monsieur Eric Théry.
Donc ils viennent intégrer notre projet, de dire on mutualise. Et l'idée, c'est vraiment de partir ensemble et que les enfants puissent se rencontrer sur le territoire, parce que je trouve qu'ils se rencontrent pas assez. Et l'idée, c'est avec les collègues de dire, ce serait bien qu'on fasse un truc en commun, et qu'ils puissent se rencontrer et se voir après sur d'autres moments, parce qu'ils fréquentent le collège et le lycée.
Bien sûr.
Partir ensemble,
ça doit créer des liens.
Ça crée
aussi
vraiment des liens, parce que les enfants ont
tous
créé des groupes WhatsApp entre eux, et je peux vous assurer que quand on fait, par exemple, le séjour là en Espagne, on le remplit en une demi-heure.
Ah oui.
C'est pour toutes les villes.
Les starting blocks.
Voilà, les parents le savent et voilà.
Donc c'est des animateurs des différentes villes qui accompagnent. Il n'y a pas de prestataire extérieur.
Alors le prestataire, lui, nous vend juste la prestation.
L'hébergement,
les activités, le transport. Et puis chaque commune est complètement autonome parce qu'effectivement, pour certaines, ils auront la CAF, la subvention CAF. Donc chacun est autonome. Il y a une direction, une équipe d'animation et on part effectivement avec le prestataire. Et voilà, chacun est complètement autonome. Mais ce qui est bien, c'est que les directeurs se voient entre eux, juste avant un mois avant de partir pour rencontrer l'équipe d'animation de chaque ville et puis commencer à créer vraiment un lien en fait et un travail de partenariat, puisque effectivement on a des échanges sur les activités qu'on va faire. Est-ce qu'on fait des activités ensemble? Est-ce qu'on on fait des activités complètement indépendantes? Mais
ça marche très bien.
Ouais,
à vous entendre, on a l'impression que c'est un petit peu propre à votre groupe de communes, ce projet, ou
non,
ça existe ailleurs?
Non, sur le coup, alors oui, pour le coup, je sais pas si ça existe ailleurs, mais là, moi, sur la on a la chance d'avoir la même com d'aglo.
Oui.
Et moi, j'ai envoyé là dernièrement à mes collègues DRH, je leur ai envoyé un petit message sur un groupe WhatsApp, parce qu'on a un groupe WhatsApp, pour leur dire, voilà, on a mis en place, est-ce qu'il y a des collègues qui seraient intéressés par ce dispositif-là, qui est, voilà, chacun est propre, c'est vraiment, le prestataire, lui, après, il voit avec chaque ville. Mais en fait, on a une tarification qui est la même. Moi, je veux pas qu'ils nous fassent une tarification. Ah ben voilà, je veux que...
Oui. Selon la commune.
Parce que nous, on a négocié avec eux. Il l'a fait pour tout le monde. Et voilà. Et sur le coup, ça fonctionne bien.
Oui, parce que lui, de toute façon, à l'arrivée, il a un certain nombre de personnes.
C'est ça.
Donc,
voilà.
Oui, peu importe. Ouais.
Et franchement, on est contents et voilà.
Voilà.
Un des projets, voilà, qu'on fait et qui fonctionne chaque année.
Très bien. Bah, écoutez, bravo pour cette initiative. Hein. On sent que vous en parlez bien avec, avec cœur. Donc, j'imagine que c'est pour ça que ça marche bien. Allez, on se fait une pause avant la dernière ligne droite et on va écouter Laurent Voulzy et son fameux titre Recollection.
On a tous dans le cœur une petite fille oubliée, une jupe lissée que de cheval à la sortie du lycée. On a tous dans le cœur un morceau de fer à user, un vieux scooter de rêve pour faire le cirque dans le quartier. Et la petite fille chantait,
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 un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Everybody's doing a brand new dance now. Ticket pour Liverpool, sortie de scène, hélicoptère pour échapper à la foule. Excuse me sir, mais j'entends plus Big Ben qui sonne, des scarabées bourdonnent, c'est la folie à London. Et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient,
et les Beatles chantaient,
un truc qui me colle encore au cœur et au corps.
It's been a hard day's life.
Ça va me servir d'aller me faire couper les tifs. Est-ce que ma vie sera mieux une fois que j'aurai mon certif? Betty a rigolé devant ma boule à zéro. Je lui dis si ça te plaît pas, t'as qu'à te plaindre au dirlo. Et je me suis fait virer.
Et je me suis fait virer.
Et les Beach Boys chantaient.
Et les Beach Boys chantaient.
Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Ça faisait
round, round, get around, I get around. Yeah. Get around, round, round, I get around.
Get around.
Vacances à Saint-Malo et des parents en maillot qui dansent chez Luis Mariano. Au camping des flots bleus, je me traîne des tonnes de cafards. Si j'avais bossé un peu, je me serais payé une guitare. Et Saint-Malo dormait,
et Saint-Malo dormait,
et les radios chantaient,
et les radios chantaient,
un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Café de ma banlieue, t'as vu la bande à Jimmy. Ça fume pas mal, ça roule autour du baby. Le pauvre Jimmy s'est fait piquer chez Disquaire, c'est dingue. Avec un single des Stones caché sous ses fringues. Et les loulous roulaient,
et les loulous roulaient,
et les cailloux chantaient,
et les cailloux chantaient,
un truc qui me colle encore au cœur et au corps.
Hey, hey.
faire mal. Ma mère aime pas mon blouson et les franges de mon futal. Le long des autoroutes, il y a de beaux paysages. J'ai ma guitare sur le dos et pas drôle pour le voyage. Et Bob Dylan chantait.
Et Bob Dylan chantait.
Et Bob Dylan chantait.
Et Bob Dylan chantait.
Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Laissez-moi passer, j'ai mes papiers, mon visa. Je suis déjà dans l'avion, going to America. Même si je reste ici, que je passe ma vie à nos gens, j'aurai une vieille Chevrolet et 18 filles dedans. Et les Bee Gees chantaient.
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 Un truc qui me colle encore au cœur et au corps.
IDFM Radio, 98 FM.
Dernière ligne droite de cette économie en direct dans laquelle j'accueille Madame Michèle Calix, maire de Roissy en France, et Kader Kadiri, DGS de la mairie du Mesnil-Aubry. Michèle, je crois que tous les maires ne sont pas que maires, c'est-à-dire ils ont aussi des fonctions souvent dans l'agglo, c'est votre cas?
Voilà, alors c'est pas tous les maires.
Ah oui,
c'est au niveau des conseillers, enfin des gens qui siègent au conseil communautaire. Il y a des délégations comme au niveau d'un conseil municipal. Donc des délégations en tant que vice-président ou en tant que conseiller délégué. Donc mais moi j'ai l'honneur d'être vice-présidente en charge des ressources humaines.
D'accord.
Donc c'est quand même 800 agents au niveau de l'agglomération et en charge de la mutualisation.
D'accord.
Voilà. Donc auparavant, j'étais en charge des sports, des équipements sportifs. Donc c'est mon confrère et mon ami, le maire de Bonneuil, qui a récupéré les sports. Et donc moi, je découvre le monde. Enfin, je découvre de l'intérieur le monde de la mutualisation et de la RH.
Donc expliquez-nous ce monde de la mutualisation.
Alors mutualisation, ça consiste à accompagner sur la base du volontariat les petites communes qui n'auraient pas les moyens ou les capacités humaines ou financières d'assumer un certain nombre de tâches inhérentes à la vie municipale, que ça soit la gestion des payes par exemple, donc qui peut être mutualisée, gérée par le service RH de l'agglo, qui refacture après au prorata du nombre de bulletins de salaire et du nombre d'agents. Ça peut être au niveau de la police intercommunale, bien évidemment. Ça l'est aussi au niveau de la commande publique, puisque les petites villes n'ont pas, les petits villages n'ont pas forcément le personnel qui va bien pour lancer des appels d'offres, pour étudier. Voilà, quand les entreprises répondent, faire l'analyse des offres, c'est pas forcément évident. Donc, toutes ces missions-là peuvent être déléguées à l'agglo via un contrat de mutualisation sur tel ou tel type de service.
D'accord, voilà. D'accord. Bon, ben, c'est intéressant de.
C'est
de,
ça.
De,
donc, forcément, c'est, je pense, une matière qui est en évolution. Au fur et à mesure, à la fois des baisses de ressources des entreprises, des collectivités.
Oui, on sait que les mairies, c'est sont comme
et, des et des besoins et des besoins divers et variés aussi des villes et villages.
Oui, et ça crée aussi du lien entre vous et les autres communes.
Exactement.
Forcément.
Ouais, exactement. Ouais.
Merci Michèle. Alors j'ai noté aussi que les petites communes sont souvent fragilisées par les réformes territoriales. Je crois que Kader, vous souhaitiez nous en dire un mot.
Oui, exactement. Les petites communes doivent aujourd'hui répondre à des attentes de plus en plus importantes, avec des moyens parfois limités. Les habitants attendent de la qualité d'un service public. Ce qui est tout à fait légitime, qu'ils attendent ça. Mais l'enjeu aujourd'hui est donc de réussir à maintenir cette proximité avec la population en s'adaptant à l'évolution réglementaire et financière.
Mm-hmm.
C'est aussi pour cela que effectivement les démarches de mutualisation deviennent très importantes.
Bien sûr,
à mon sens.
Oui, je comprends.
Elles permettent de maintenir un service de qualité sans perdre l'identité locale de nos communes.
Mm-hmm.
Donc, voilà.
Aujourd'hui, tout l'enjeu est là, c'est-à-dire qu'il faut arriver à garder son autonomie, son indépendance.
Exactement.
Tout en bénéficiant de.
Ouais. Exactement. Donc, voilà. C'est pour ça que, pour moi, la mutualisation aujourd'hui, elle a toute sa place. Mmh. Et je rejoins Madame le maire, effectivement, et elle a un beau secteur en tant que vice-présidente de la mutualisation et de la RH. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin de cet accompagnement auprès de l'agglo, puisque nous aussi, on va être amené à mutualiser avec l'agglo sur certains domaines. En l'occurrence, les caméras, voilà, la vidéosurveillance. Donc, sur le coup, c'est vrai que c'est pour nous, c'est un grand soutien. Mmh. Et parce qu'on n'a pas toutes les compétences humaines pour pouvoir effectivement nous aider. Puis donc, on a l'agglo qui est là pour nous soutenir et qui nous soutient vraiment très très bien. Mmh. Et pour cela, vraiment, merci aux maires, aux différents maires d'être et ses vice-présidences, parce que c'est vrai que c'est vraiment du travail, et c'est un accompagnement.
C'est une vraie tâche, oui.
C'est une vraie tâche, et c'est un accompagnement, en fait, de tous les jours, en fait.
Très bien. Mais écoutez, merci infiniment. Voilà, c'est bien déjà la fin de cette émission. Mais quelques mots avant de quitter l'antenne. Donc, Kader, Kadiri, un mot avant de nous quitter.
Mais écoutez, déjà, merci beaucoup.
Je vous en prie.
Merci
c'est
beaucoup
un plaisir.
M'avoir invité. Effectivement, les enjeux des ATSEM et des animateurs sont au cœur des collectivités, à mon sens. Et on ne doit pas surtout oublier qu'ils sont importants.
Bien sûr.
Et j'espère que beaucoup de monde entendront ce message-là, qu'il faut faire participer les ATSEM et
être vigilant,
les animateurs dans un projet commun. En fait,
oui.
Parce qu'ils auront beaucoup de choses aussi à apporter.
Non, mais c'était intéressant, et c'est vrai que vous avez soulevé un problème dont moi j'ignorais même l'existence. Donc c'est bien d'en avoir parlé. Merci infiniment.
Merci.
Madame Michèle Calix, Michèle, un mot de conclusion.
En tout cas, voilà, merci Jacqueline pour l'accueil, c'est toujours sympathique. Et les coulisses sont aussi sympathiques parce que ça permet d'échanger en off. Je pense qu'on échangera nos cartes de visite.
Ah ben, j'en suis ravie.
Voilà, parce que c'est tout l'intérêt, c'est de découvrir ce qui se passe ailleurs, de benchmarker, de tous progresser et d'apprendre, des expériences des voisins. Donc merci beaucoup pour cette possibilité qui nous est offerte de découvrir des nouveaux univers à chaque fois.
Et moi je vous remercie vous bien sûr Michel, mais vos équipes aussi, Olivia Usan, qui sont très à l'écoute, et c'est très agréable pour
nous.
Et
puis on espère vous voir en 2027 fin juin, où on redémarrera une nouvelle édition du festival.
Ah bah écoutez, je le note tout de suite dans mon agenda. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir participé à cette émission de l'économie en direct, un échange riche autour des territoires, de l'engagement public, mais aussi de ces métiers essentiels qui accompagnent chaque jour nos enfants et participent au lien social dans nos communes. On vous souhaite le meilleur pour les 6 années à venir, et avec on n'aura pas fini d'en parler. Je le souhaite en tout cas. Merci Naé pour la technique. Donc Naé qui n'est autre que le fils de Kader, donc il faut que je le précise, toujours stagiaire chez IDFM Radio. Merci à nos auditrices et auditeurs pour leur fidélité. Cette émission vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez-la en podcast sur les supports d'IDFM Radio. Très belle journée à toutes et à tous, et restez surtout connectés pour la suite des émissions sur IDFM Radio. À bientôt.